Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1971, Le Domaine des Dieux est le 17e album d'Astérix, scénarisé par René Goscinny et dessiné par Albert Uderzo. Cette bande dessinée humoristique situe son action en 50 avant Jésus-Christ, dans la Gaule résistante qui constitue le cadre familier de la série. Lassé des échecs militaires contre le village gaulois, Jules César remplace la conquête par une stratégie d'urbanisation et de séduction sociale. Il fait édifier, au bord de la forêt, une résidence romaine luxueuse destinée à attirer des habitants et à transformer progressivement l'environnement du village. L'album détourne ainsi les codes de l'aventure antique pour observer des mécanismes très modernes: promotion immobilière, marchandisation, tourisme, consommation et uniformisation culturelle. Astérix et Obélix ne doivent pas seulement repousser des légionnaires, mais comprendre comment un changement économique peut fragiliser une communauté de l'intérieur. La précision satirique du scénario, associée au dessin très expressif d'Uderzo, fait de cet album une comédie accessible dont les enjeux demeurent particulièrement lisibles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la conquête romaine passe de la force militaire à la transformation du cadre de vie. Le point de départ du domaine des dieux renouvelle efficacement le conflit habituel entre César et le village. Les armées romaines ont déjà montré leurs limites face à la potion magique et à la solidarité des Gaulois. César choisit donc une méthode indirecte, installée à proximité d'une ville résidentielle romaine, afin que le village ne puisse plus vivre selon ses propres règles. Cette idée donne à l'album une portée plus large que celle d'une simple bataille. Le danger ne réside pas d'abord dans une attaque, mais dans l'altération du paysage, des habitudes et des rapports sociaux. La forêt, qui protège le village et assure son autonomie, devient un terrain à défricher et à bâtir. Le projet urbain incarne une forme de pouvoir qui ne cherche pas seulement à vaincre un adversaire, mais à rendre son mode de vie marginal puis impraticable. Goscinny construit une satire claire de la colonisation par les infrastructures et par l'attractivité matérielle. Les appartements, les commerces et les visiteurs romains apparaissent comme les instruments d'une intégration progressive. L'album montre ainsi que l'indépendance collective peut être menacée sans combat frontal, lorsque l'environnement économique est redessiné par une puissance extérieure. Deuxièmement, le commerce avec les nouveaux voisins révèle une fragilité interne du village. L'arrivée des premiers résidents romains déclenche une mutation comique mais significative chez les villageois. Les Gaulois comprennent vite qu'ils peuvent vendre aux nouveaux venus des produits et des objets à des prix très élevés. Cette clientèle inattendue fait naître des réflexes de profit qui déplacent l'attention de la vie commune vers l'intérêt individuel. Le ressort humoristique fonctionne parce que les personnages, traditionnellement définis par leur résistance unanime aux Romains, deviennent sensibles à l'argent romain dès lors qu'il semble facile à obtenir. Goscinny ne les présente pas comme définitivement corrompus. Il met plutôt en scène la rapidité avec laquelle une opportunité commerciale peut modifier les priorités d'une collectivité. Les querelles liées aux prix et aux ventes soulignent la contradiction entre la défense affichée de l'identité gauloise et l'exploitation enthousiaste des clients romains. Astérix perçoit alors un problème que les coups ne peuvent pas résoudre. Le plan de César réussit précisément parce qu'il encourage les habitants à participer eux-mêmes à la transformation du village. Cette dimension distingue l'album dans la série. Le rire vient des excès des comportements. Mais l'observation vise un phénomène concret: une économie fondée sur la demande extérieure peut faire dépendre une communauté de ce qu'elle prétend combattre. Troisièmement, la forêt et le travail des esclaves donnent une dimension éthique au conflit. La construction du domaine des dieux commence par le déboisement de la forêt voisine, ce qui place immédiatement le projet romain sur le terrain de la destruction du milieu de vie gaulois. Astérix et Obélix opposent aux bûcherons, mais la situation se complique parce que ceux qui exécutent ce travail sont des esclaves. L'album évite ainsi une opposition trop mécanique entre Gaulois et Romains. Frapper ou empêcher les travailleurs ne suffit pas, car ils ne sont pas libres de choisir leurs tâches. La décision de laisser les esclaves emporter le bois afin d'obtenir leur affranchissement introduit une logique de solidarité qui dépasse la défense immédiate du territoire. Ce choix a un coût stratégique, puisqu'il facilite temporairement la construction, mais il affirme une limite morale à l'action des héros. Goscinny transforme un gag potentiel autour des travaux romains en réflexion simple sur la contrainte du travail et sur la responsabilité des puissants. Les esclaves ne sont pas seulement un décor antique, ils permettent de montrer que le système impérial repose aussi sur l'exploitation. La forêt devient alors plus qu'un espace pittoresque, elle représente à la fois l'autonomie du village, une ressource convoitée et le lieu où les conséquences humaines du chantier deviennent visibles. Cette articulation entre humour, écologie implicite et critique sociale reste l'une des forces les plus singulières de l'album. Quatrièmement, Astérix doit opposer une stratégie sociale à un projet conçu pour séduire dans de nombreuses aventures d'Astérix. La supériorité physique donnée par la potion magique permet de résoudre rapidement les affrontements avec les Romains. Le domaine des dieux limite volontairement l'efficacité de cette réponse. Détruire un bâtiment ou chasser des soldats ne suffit pas à faire disparaître l'attrait appartement, du confort et du commerce. César a conçu son opération pour que les Gaulois aient intérêt à accepter sa présence. Ce qui oblige Astérix à réfléchir aux effets sociaux du projet plutôt qu'à sa seule dimension militaire. Cette évolution est importante pour le personnage, sa lucidité consiste à repérer les conséquences indirectes que ses compagnons ne voient pas d'abord. Obélix conserve son rôle d'allié énergique et comique, mais l'intrigue valorise particulièrement la capacité d'Astérix à comprendre les mécanismes d'influence. Le récit met en évidence une idée nette : un adversaire peut gagner en modifiant les désirs des personnes, même sans les contraindre ouvertement. La résistance doit donc viser les conditions qui rendent le projet désirable et non uniquement ses exécutants. Cette structure donne à l'album un rythme différent, fait de tentatives, de retournements et d'observations du comportement collectif. Elle explique aussi pourquoi la satire demeure convaincante : le problème posé ne peut être réglé par une solution unique, car il touche aux choix ordinaires, aux habitudes et aux intérêts de chacun. En dernier lieu, la satire de l'urbanisme moderne s'appuie sur un anachronisme maîtrisé. Le domaine des dieux appartient pleinement à l'univers antique d'Astérix, mais son efficacité comique vient du dialogue constant avec des réalités contemporaines de sa création. La résidence romaine évoque les grands ensembles, les programmes immobiliers et les discours qui présentent le développement urbain comme un progrès automatique. Son nom grandiose. Son organisation et la venue de propriétaires romains transposent dans l'Antiquité des logiques reconnaissables de promotion, de confort standardisé et de spéculation. Goscinny ne cherche pas à reconstituer fidèlement l'urbanisme romain. Il utilise l'anachronisme comme un outil de lecture du présent en déplaçant ses mécanismes dans une Gaule imaginaire. Il rend plus visibles leurs absurdités et leurs effets sur les habitants. Le village risque d'être réduit à une curiosité pour visiteurs, alors même que sa valeur repose sur une manière de vivre autonome et collective. Le dessin du Derzo amplifie cette opposition par le contraste entre la forêt, les maisons irrégulières du village et l'architecture ordonnée du chantier romain. Cette différence visuelle donne une forme concrète au conflit entre diversité locale et modèle imposé. L'album ne condamne pas abstraitement toute ville ou tout échange. Il interroge plutôt un aménagement décidé sans les habitants, dont la réussite dépend de leur adaptation forcée. C'est cette précision satirique qui permet à la comédie de dépasser le simple décor historique. En conclusion, le domaine des dieux s'adresse naturellement au lecteur qui découvre Astérix, car son intrigue est autonome. Son humour visuel est immédiat et les figures centrales de la série y sont employées avec une grande clarté. Il intéressera aussi les lecteurs adultes sensibles à la satire sociale, ainsi que ceux qui souhaitent observer comment une bande dessinée destinée au grand public peut traiter l'urbanisation, la consommation et la domination culturelle sans devenir démonstrative. Le bénéfice principal de la lecture tient à cette double accessibilité : l'album offre une aventure vive, des gags de langage et de situation, tout en donnant des outils simples pour penser les conséquences d'un projet économique sur une communauté locale. Il montre notamment que l'indépendance ne se perd pas seulement sous la contrainte militaire, mais aussi par l'adoption graduelle d'intérêts et de désirs venus de l'extérieur. Parmi les albums d'aventure humoristique, il se distingue par la nature de son antagonisme. César ne cherche pas ici à capturer les héros ou à gagner une bataille, mais à rendre leur résistance inutile en changeant leur environnement. Cette idée structure le récit avec une cohérence rare. Le scénario de Goscinny combine une critique précise des modèles immobiliers et touristiques avec le rythme léger de la série, tandis que le dessin du Derzo rend immédiatement lisibles les contrastes entre village, forêt et résidence romaine. L'album conserve ainsi une force comique et intellectuelle durable. Si vous souhaitez soutenir René Goscinny, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.